France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Cette semaine et la semaine prochaine, nous vous emmenons en voyage. On prend l'air pour célébrer le printemps en ces deux premières semaines de mai avec ses jours fériés. Deux émissions spéciales pour changer nos habitudes et réfléchir sur le monde avec nos invités. Voici le sommaire de ces nouvelles escales francophones.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Nous irons dans une forêt avec la grande poétesse et romancière québécoise Hélène Dorion. Un entretien très grand format pour comprendre son œuvre et son regard sur la nature. Un moment de radio pour tous qui servira aussi aux lycéens français qui préparent le bac de français puisqu'Hélène Dorion est au programme cette année. De la forêt, nous partirons au bord de l'océan avec Jean-François Samelong qui raconte un pan de l'histoire de l'industrie sucrière et de l'esclavagisme. Cap sur l'île de la Réunion, du côté de Grandbois pour un entretien-reportage sur les vestiges d'une ancienne usine. Nos libraires sont évidemment parmi nous pour leur coup de gueule et leur coup de cœur et nous rendrons hommage à Paul Auster avec eux tout à l'heure. Et on commence comme toujours avec l'actualité francophone de la semaine. Les nouvelles éditions 2025 des dictionnaires sortent déjà en librairie. Le Petit Robert est annoncé pour le 16 mai et le Petit Larousse illustré, ce sera le 22 mai. Mais cette semaine, le Larousse a dévoilé 150 nouveaux mots. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes lexicologue et historien de la langue française, grand passionné des dictionnaires et vous êtes le parrain de cette édition 2025 du Petit Larousse illustré. Un dictionnaire, c'est un miroir de l'évolution de la société pour vous ?
Oui, alors c'est une sorte de photographie permanente, année après année, millésime après millésime, et c'est la chance des dictionnaires français avec un Petit Larousse qui a commencé en 1905, hein, ouais. Donc c'est le premier, et si on cherche en germe, on peut même remonter à 1856, le premier ouvrage de Larousse qui s'appelait à l'époque « Nouveau dictionnaire de la langue française ».
Comment choisit-on les mots qui entrent dans le dictionnaire ? Comment en procède-t-on ?
Ben, il y a une sorte de comité de spécialistes qui est vigilant et qui écoute la radio, qui lit le journal, ouais. Qui regarde aussi, ne serait-ce que les devantures des magasins, et fait son miel de tout cela. On se retrouve avec beaucoup de mots, et après, il faut choisir ceux qui sont non pas les plus importants peut-être, mais sûrement, parce que c'est la fréquence en fait qui fait qu'on le retient, et l'actualité aussi, bien sûr.
Alors la francophonie enrichit les dictionnaires. Il y a certains mots propres à un pays ou à une région qui font cette année encore leur entrée dans le Larousse, comme le bokit, par exemple, qui est une spécialité de la Guadeloupe.
Oui, alors le bokit, c'est un mot créole qui vient des Antilles. C'est un petit pain rond, hein, croustillant et moelleux. Et en fait, c'est un mot qui est d'origine assez plaisante parce que au départ, c'est un nom propre. C'était le Johnny Cake, qui était une sorte de sandwich rapide fait pour des gens qui étaient très pauvres et qui ne pouvaient pas faire du pain avec de la levure. Alors c'est une sorte de galette sans levure. Et le Johnny, ça s'est déformé en jokit pour arriver à bokit. Ça, c'est le mystère de la phonétique.
C'est l'usage et ce sont les habitudes, hein, si on comprend bien, pour faire en sorte qu'un mot entre dans le dictionnaire. Du côté des noms propres, là encore, parfois le Larousse est précurseur, mais parfois il a du retard. Parce que si vous pensez à la fréquence, Mylène Farmer, la chanteuse, entre que cette année 2025 dans le dictionnaire. C'est pas logique, Jean.
Oui, alors bon, il est vrai que de temps en temps, il y a des hésitations, dans tout dictionnaire, rien n'est parfait, mais bon, l'important c'est qu'elle y entre d'une certaine façon. Et puis, si on voit ceux qui entrent en quelque sorte tardivement, il faut aussi voir ceux qui y entrent très rapidement.
Oui, hein, donc, alors oui, j'allais vous dire.
Bon, une évolution.
Exactement, Hélène Dorion, par exemple, que nous allons rejoindre dans un instant, entre dans le Larousse, elle aussi. Et là, le Larousse est précurseur. Félicitations, Hélène Dorion, effectivement, l'auteure québécoise, poétesse et romancière.
Oui, elle a droit à un très long article d'ailleurs. Hein. Mmh. On rappelle sa date de naissance au Québec, écrivaine canadienne de langue française. Ses romans, alors ils sont cités, il faut savoir qu'il n'y a pas trop de place dans les dictionnaires.
Ouais,
donc
ouais.
C'est vraiment un hommage fort. Quand on cite Jour de sable en 2002, Le temps du paysage en 2016, sa poésie Ravir les lieux 2005,
Mes forêts
2021,
voilà.
À l'écriture donc dépouillée. Il y a même un commentaire à l'écriture dépouillée et au lyrisme contenu, réinvente notre rapport au monde et à la nature entre émerveillement et inquiétude. Parfois, le petit Larousse, quand même, et même souvent, est presque poétique. Hein.
Mais
et on
vrai.
Évoque qu'elle
c'est
a écrit
vrai.
Un opéra avec Balis Yourcenar.
Non, ne dites pas tout,
Non, je ne dis pas tout.
C'est vrai que le Larousse est poétique, en tout cas, il est illustré. C'est très très beau, hein. À chaque fois, c'est un bel objet, vraiment. On salue Florence Sestac, notre amie Florence Sestac, et Angélique Kidjo aussi, grandes amies de la librairie francophone, qui entrent dans le Larousse 2025. Merci beaucoup, Jean Pruvot.
Ben c'est moi qui vous remercie.
À très bientôt. Le Petit Larousse illustré 2025 sortira en librairie le 22 mai prochain et son concurrent, le Petit Robert, est annoncé pour le 16 mai. À bientôt, Jean. Voici nos libraires. Quatre libraires sont avec nous comme chaque semaine. Au Québec, c'est Josiane Letourneau de la librairie Pauline à Montréal qui est avec nous. Bonjour, Josiane.
Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Alexandre Dimitrievitch.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, vous dans la librairie Delphica. Bonjour la Belgique, bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la très très belle librairie, je le dis toujours, du théâtre Le Public à Bruxelles.
Très très belle.
Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Très très belle aussi, votre librairie à Orléans, dans la librairie Les Temps Modernes, puisque vous êtes là-bas en ce moment. Merci d'être avec nous tous les quatre. On part en balade en forêt avec la poétesse et écrivaine Hélène Dorion, donc au programme du bac pour les lycéens français, célébré en ce moment entre la France et le Québec pour l'ensemble de son œuvre.
Rien ne pourra égaler les mailles de mes forêts, rien ne pourra entamer leur beauté. Rien ne pourra égaler les mailles de mes forêts, rien ne pourra rayer ma cornée. Là-bas dans mes forêts, là-bas dans mes forêts, là-bas dans mes forêts, là où j'oublierai. Là-bas dans mes forêts, là-bas dans mes forêts, là-bas dans mes forêts, là où j'oublierai le beau, le vrai.
Bonjour Hélène Dorion.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes dans une forêt, dans un bois, très exactement, quelque part dans le monde. Imaginons finalement tous ensemble le lieu où nous sommes, avec évidemment la nature, des arbres. La forêt, le bois, ce sont des domaines universels.
Tout à fait, c'est vraiment universel. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à l'humain. Il y a du semblable et il y a du différent. Partout dans la nature, on peut retrouver des éléments qu'on connaît, puis en même temps, aller dans la singularité qui nous est inconnue. Donc, on redécouvre, on revisite ce qu'on croit connaître.
Tout est vert autour de nous. Il y a des oiseaux, des arbres monumentaux, quelquefois, que l'on croise. C'est très diversifié. Ça me fait penser un peu à l'humanité, une forêt, avec toutes les différences.
Absolument. Et chaque arbre, comme chaque humain, a sa forme singulière, prend vie. J'allais dire, cherche la lumière. Nous aussi, on cherche la lumière, traverse des saisons. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une métaphore très évocatrice, très forte, très riche surtout de ce qu'est l'humanité.
La nature encourage, génère la poésie chez vous, Hélène Dorion, comme si cette communion enclenchait votre inspiration.
Oui, tout à fait.
On peut dire ça?
Oui, moi je pense que j'ai une écriture du lien et de la rencontre. Enfin, c'est ce vers quoi je tends. Et la nature, pour moi, c'est essentiellement un lien. C'est-à-dire qu'on vient de la nature, mais on apprend à s'y lier. On apprend quelle est la nature de ce lien aussi. Et c'est une inspiration infinie parce que c'est toujours en changement, c'est toujours en transformation. On peut pas dire qu'on connaît la nature. On peut dire qu'on la rencontre dans ses différentes formulations, ses propositions, ses questions, ses mouvements aussi. Donc, pour moi, ça génère vraiment ce mouvement d'écriture et de création.
Alors là, nous marchons sur des sentiers, Hélène Dorion, nous sommes en contact direct avec cette nature-là. C'est une expérience intime, on a tous vécu cette expérience intime de nous réfugier dans la nature ou face à la nature, dans un bois, au bord de la mer, près d'un lac, c'est régénérant et comme par miracle, c'est vrai que souvent des pensées surgissent, on y voit un peu plus clair, on trouve des réponses ou même un espoir en cas de difficulté.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est d'abord parce qu'on est en lien avec soi-même, c'est-à-dire qu'on se rencontre. Quand on est avec les éléments les plus simples, mais en même temps les plus complexes, il y a quelque chose de nous-mêmes qu'on rencontre et qu'on ne peut rencontrer qu'ici. Et il y a aussi le silence, hein? Je veux dire, la parole de cette nature, on peut l'entendre, on peut être à l'écoute. Et c'est vrai que oui, il y a quelque chose de lumineux, j'allais dire de réparateur, de réconfortant, bien qu'on sait évidemment que la nature, c'est pas que ça, hein? C'est aussi menaçant, c'est aussi du danger, c'est aussi une forêt notamment, fantomatique.
Mais on va y venir, oui.
Oui, mais il y a quelque chose d'abord et avant tout qui tient d'un bien-être, d'une manière de se poser avec ce qui était là avant nous et ce qui sera probablement là après nous aussi.
Un peu comme si on était à la croisée des chemins. Là, on est à la croisée des chemins, puisqu'on a quatre chemins qui partent dans tous les sens, des chemins un peu boueux, parce qu'il a plu il y a quelques heures. C'est vrai que cette expérience, Hélène Dorion, chacun d'entre nous peut la vivre, mais nous la vivrons tous de manière différente. C'est-à-dire que même accompagné de la personne qui nous est le plus proche, cela reste personnel.
Oui, c'est vrai, je trouve aussi. On dirait qu'on se rencontre soi-même dans ce qu'on a de plus intime, de plus secret peut-être, et que la nature nous aide à le révéler. J'ai l'impression qu'on sait encore mieux qui on est quand on est avec la nature, quand on marche. Bon, quel chemin on va choisir maintenant?
Justement, choisir. Oui, on va aller vers la gauche.
Voilà, donc on choisit ce chemin, mais ça ressemble aussi à la vie. Donc, comment on regarde un arbre, comment on écoute les oiseaux, ça dit beaucoup de nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, ce lieu est aussi un lien fondamental, fondateur, je pense.
On peut imaginer toutes sortes de choses quand la nuit tombe dans un bois ou dans une forêt. On imagine ces êtres vivants qui s'activent, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Et c'est vrai que la forêt, c'est un monde dur, c'est un monde sauvage, avec des rapports de domination et de prédation. Toute la condition humaine est là, avec ses dérives, Hélène Dorion.
Absolument. Donc, on entre dans la forêt. Peut-être qu'on rencontre d'abord la forêt comme refuge, comme dans sa beauté, dans ce réconfort qu'elle nous offre. Mais rapidement, on se rend compte justement que c'est un lieu aussi, ben, c'est sauvage. C'est pas quelque chose d'apprivoisé. Il y a des animaux, il y a ces bêtes qui peuvent être menaçantes. Il y a les saisons qui sont là. Ça peut être des vents forts.
Il y a une grosse pierre,
les branches. Et pour moi, on doit jamais l'oublier. Ce n'est pas un rapport à la forêt qui est bucolique, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Où on est juste dans quelque chose de beau, de réconfortant, d'une contemplation. Non, je cherche plus une sorte de, de vérité. Je sais que c'est un grand mot.
Un affrontement aussi.
Oui, tout à fait. Un affrontement qui tienne à la fois de l'expérience et de la connaissance.
Dans votre roman « Pas même le bruit d'un fleuve » qui raconte la vie d'Anna en quête de son histoire familiale avec le mystère d'une mère distante, il y a le fleuve Saint-Laurent dans ce livre qui apparaît à la fois comme un refuge et comme un monde hostile. Et vous écrivez « Quand je regarde le fleuve », c'est votre personnage qui dit ça, « je vois la scène où se déroulent des moments heureux mais où se produisent aussi des malheurs ».
Oui, on a les deux mondes et quand on pense au fleuve, notamment au fleuve Saint-Laurent, on pense à un espace vaste, accueillant, mais non, il y a aussi tous les écueils. C'est un des fleuves les plus difficiles à naviguer, je pense, en tout cas, à ce qu'on dit.
Oui, pareil.
On change de capitaine, de navigateur en entrant dans le fleuve. Il y a les brouillards, c'est le cas dans mon roman. Donc, c'est un fleuve qui porte en lui aussi non seulement des naufrages réels, mais aussi des naufrages intérieurs, qui porte en lui toutes ces menaces toutes ces catastrophes aussi qui peuvent surgir de la nature. Donc, c'est encore là, c'est pas juste un personnage, disons, bon. C'est un personnage vrai. Mm-hmm. C'est un personnage réel qui colle à la vie. Et c'est le sens de, disons, du fait que j'ai utilisé ou je suis allée chercher cet élément qui est un élément réel, ce naufrage de l'Empress of Ireland, qui a été en fait une des plus importantes catastrophes maritimes du 20e siècle.
Événement universel, effectivement, avec ce naufrage de l'Empress of Ireland en 1914. Ce paquebot transatlantique qui effectuait la liaison entre Québec et Liverpool, qui a fait naufrage en faisant entre 1057 et 1513 victimes, vous le dites dans le roman, ce n'est pas vraiment le nombre de victimes, c'est une histoire terrible.
Absolument. Et c'est un élément qui, moi, m'a aussi inspirée parce que je l'utilise là aussi comme une métaphore. Il y a des naufrages individuels dans nos vies et on ne sait pas toujours d'où l'on vient, de quelle catastrophe on est né et qu'est-ce qu'on porte aussi des générations qui nous ont précédés. Et c'est un peu ce qui s'est articulé entre ce naufrage, disons, universel, cet élément historique, et le naufrage individuel d'Anna, de sa mère Simone, d'Antoine, son premier amoureux, des autres personnages, en fait, et en posant aussi, bien sûr, la question de la résilience ou non, parce que c'est pas toujours possible.
Bon, on va aller au bord d'un étang, si vous voulez bien. On va voir autre chose. On va quitter, enfin quitter, on est dans cette forêt, mais il y a des étangs ici. Quand vous touchez un arbre, tiens, il y en a un juste vraiment là que vous touchez en ce moment, quand vous touchez l'écorce, qu'est-ce que vous ressentez, Hélène?
Vraiment, ça me... Physiquement, je ressens quelque chose. J'ai l'impression de toucher du temps, de toucher une sorte de cristallisation d'une mémoire, de quelque chose qui, tout à coup, incarnerait de manière vraiment charnelle tout ce qui reste un concept pour moi. Le temps, la mémoire, tout ça qui est un peu abstrait, tout à coup, c'est comme si là, je le tiens dans mes mains, je le tiens bien, je tiens du temps. Et avec beaucoup de respect aussi, beaucoup de respect, c'est quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre, j'allais dire, du sacré, un sacré profane, évidemment, mais oui, c'est de cet ordre-là pour moi. Cet arbre, mais qu'est-ce qu'on sait, ce qu'il a pu traverser, ce qu'il a dû traverser pour se rendre à cette forme singulière, à cette beauté, à sa manière de prendre la lumière et en même temps de laisser de la lumière pour son voisin, ses voisins comme ça. Donc, c'est quelque chose de grand, un arbre, dans tous les sens du terme.
C'est vrai. Bon, allez, allons de l'autre côté de cette forêt, de ce bois, allons voir l'eau. Oui.
Oui.
De poursuivre ce reportage, on va rejoindre deux de nos libraires qui ont lu le recueil de poèmes « Mes forêts » d'Hélène Dorion. En Belgique, Déborah Damblon, qu'en pensez-vous ?
Oh, j'en pense, Emmanuel, j'en pense que la lecture de « Mes forêts », c'est une expérience mais complète. Parce que ça, en même temps, c'est littéraire, c'est sensoriel, c'est organique, c'est même quasiment spirituel. C'est un incroyable voyage qui est porté par les mots, mais au cœur de ce que les forêts peuvent avoir de multiples. Vous savez, d'immenses et de minuscules à la fois, c'est un voyage qui dépasse l'humain et qui nous élève au rang du végétal dans toute sa puissance et dans toute sa sérénité.
Sophie Todescato, en France, quel est votre avis ?
Ah, j'ai beaucoup aimé cette métaphore de la forêt et la manière dont elle se transforme et se transfigure sans cesse avec une grande liberté d'écriture qui rend le lecteur libre à son tour. C'est un livre qui n'impose jamais un sens, qui exige non pas qu'on l'interprète, mais vraiment qu'on en fasse l'expérience. Et c'est peut-être ça, la poésie. Et c'est très émouvant, je trouve, de penser que tant de jeunes lecteurs de 16 ans vont s'approprier ce livre et que les forêts d'Hélène Dorion deviendront leur forêt.
C'est vrai. Avant d'aller au bord d'un étang, donc, avec Hélène Dorion et avec des animaux que nous allons croiser, on écoute Mickey 3D avec Big Flo et Oli dans la librairie francophone spéciale reportage en ce début du mois de mai.
Donnez-moi un peu d'air. Mais j'ai fermé la fenêtre.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins.
Ok.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose je crois bien.
Ok.
Droit dans le mur on continue de foncer. Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous,
okay.
D'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer,
okay.
J'enfile un casque VR pour prendre l'air,
okay.
On fonce dans le fossé à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans.
Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent.
Les trop tard quand les taux se resserrent.
Si c'est pas rien de le dire,
alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux. À la fin, qui restera debout? On espère que la génération future fera mieux. Mais celle d'avant, espérez pareil de nous.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et c'est pas rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Mais j'ai fermé la fenêtre.
Et ça c'est rien de le dire.
Tout va dans la tête.
Tu vas pas mourir de rire.
Je comprendrai peut-être.
Et c'est pas rien de le dire.
Ah, t'avais raison.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et ça c'est rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Et j'ai fermé la fenêtre.
Il faut que tu respires.
Tout bas dans la tête.
Il faut que tu respires.
Je comprendrai peut-être.
Il faut que tu respires.
Ah, t'avais raison.
Respire, version 2020, interprétée par Mickey 3D avec Big Flo et Oli. Hélène Dorion est dans la librairie francophone cette semaine pour un grand reportage en pleine nature autour de son recueil de poèmes Mes forêts et de son roman Pas même le bruit d'un fleuve, roman que les libraires ont lu également. Alexandre Dimitrievitch, en Suisse, vous avez aimé ce livre, je crois.
Oui, il faut dire que j'aime beaucoup les récits fragmentés présentés sous la forme de journaux comme celui-ci.
Mmh.
C'est un style qui se démarque par sa franchise et sa nuance et qui permet à celui ou celle qui le lit de cerner toutes les aspérités de la vie d'une autrice. Eh ben, c'est vrai. Pas même le bruit d'un fleuve ne déroge pas à cette règle. Les mots choisis par Hélène Dorion savent toucher les choses pour les rendre vivantes.
Mmh.
Et on lit dans ces pages des fragments d'histoire qui se répondent comme autant de miroirs dans une langue précise et très poétique. Mmh. C'est absolument renversant.
C'est joliment dit, Alexandre. Josiane Letourneau au Canada, une belle rencontre pour vous.
Oui, une grande rencontre avec Hélène Dorion. En fait, quand on lit ce roman, Emmanuel, on assiste à cette rencontre entre l'art et la philosophie, la poésie. On est sans cesse dans ce sublime mais terrible combat entre la mort et la grâce, la ruine et la beauté. C'est une histoire qui bouleverse parce que les personnages n'ont que peu de consolation devant l'inenvisageable. Mais les drames qu'Hélène Dorion nous raconte, bien, ils font partie d'une histoire qui est plus grande qu'eux. Et c'est ça, par-dessus tout, qui fait de ce livre une œuvre chavirante.
On repart dans la nature avec cette œuvre chavirante, comme vous dites Josiane, avec Hélène Dorion pour la suite de ce reportage grand format.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Là, on arrive à sur un point d'eau, comme on dit, avec une petite cascade. Mais je crois qu'il y en a une plus grande à côté, Hélène Dorion.
Oui, on l'entend. On la sent aussi. Hein?
Oui, c'est
moi,
vrai.
Je suis très, très sensible aux odeurs. Hein? On l'avait remarqué, Manuel, depuis tout à l'heure. Ça sent ceci, ça sent cela. Moi, je pense que l'écriture, la littérature, c'est une manière d'être attentif, d'être présent et d'être complètement là dans cet instant où la vie se déploie. Alors là, on est entre la petite chute et la grande cascade et l'étang, en fait. C'est très beau. On va pas descendre par là, non, j'espère.
On va passer, parce que là, c'est un chemin de terre
d'accord.
qui tombe à pic.
Oui,
on va prendre un petit chemin, regardez, avec des graviers, là. Ah, ça
d'accord.
va être très bien.
D'accord. On est en sécurité.
Pour sauver le monde, se sauver, en tout cas, pour surmonter les drames, il y a la poésie, Hélène. Ça, vous l'avez toujours dit. L'écriture qui permet le tissage d'un lien entre les générations. On la voit dans votre roman aussi, cette idée-là.
Oui, tout à fait. Pour moi, la littérature, la poésie, l'art en général, c'est vraiment ce qui relie d'abord à soi-même. Donc, c'est la capacité qu'on a de prendre la parole, mais d'abord et avant tout d'écouter la parole du monde et la parole de l'autre aussi. Faire place à l'autre dans notre vie par l'art. C'est un lieur, l'art. Peu importe la discipline, la musique, les arts visuels, la poésie, bien sûr. Ça nous relie à nous-mêmes et aux autres.
Bon, on va passer un petit pont de bois, regardez,
oui,
avec
oui.
deux marches en pierre. Allez-y, je vous laisse passer.
D'accord.
Avec un cours d'eau qui passe juste en dessous.
C'est très beau.
Et on a, regardez, une sorte de petit balcon. Alors ça, c'est très étonnant.
Ouais.
Un petit balcon avec une rambarde de bois. Un arbre qui est couché dans le lac.
Couché dans le lac, ça, c'est...
Et là, la cascade, juste sur notre gauche. Là, vous êtes dans votre élément, Hélène Dorion. C'est mon cadeau.
Oh, c'est un immense cadeau. Non, mais c'est vrai, moi, je le sens physiquement. Vraiment tout ça. Mais de voir cet arbre-là qui est étendu au milieu de l'étang comme ça, comme pour s'unir... Tout est lié, il s'agit de le ressentir, de le voir et de laisser les mots nous révéler ces liens-là, en fait.
Oui, c'est ça, important,
l'écriture.
Les mots. Alors,
oui.
évidemment, pour vous, c'est plus qu'important,
oui,
c'est
oui.
toute l'histoire de votre vie.
Oui.
Dans votre roman, vous écrivez « Les poèmes peuvent-ils nous sauver du naufrage ? Les poèmes sauvent-ils de la souffrance ? Les poèmes rendent-ils plus légère la part qui pèse en nous ?»
Je trouvais important, dans un roman qui évoque... justement le naufrage, j'en parlais tout à l'heure, parfois l'impossibilité d'une résilience, mais de faire en sorte que tout à coup, on doive simplement embrasser la douleur, la souffrance, les chagrins, les pertes. Et pour moi, ben oui, les mots sont là pour nous porter, pour explorer surtout. Je les vois toujours, moi je dis toujours, j'écris pas sur ce que je sais, mais sur ce que j'ignore.
On va contourner la petite cascade, Hélène. Hop, monter quelques marches,
oui.
et on va arriver sur ce chemin-là. Hop, on va bifurquer sur la gauche, là, tout de suite. Donc, vous êtes contemplative, Hélène, mais vous alertez aussi sur les violences faites à la nature. Ce que l'on fait aux animaux, alors qu'un cygne, là, passe devant nous sur ce lac, ce que l'on fait aux animaux, les humains se sont appropriés la nature. Vous dites que l'on a souillé la beauté du monde, que l'on a vendu au plus offrant.
Le constat est important. Je l'ai fait là de manière un peu, disons, universelle, par une sorte, mais sans prétention aucune, de genèse, si on veut, revisiter les débuts. Mais on le fait aussi dans nos vies personnelles. Si je veux prendre un nouveau chemin, je vais regarder. C'est très beau. Hein?
Qu'est-ce que c'est ça?
Ben, je pense que ça ressemble
à... Ça doit être des pans, non?
Non, non. C'est pas des oies.
Ah, ça doit être des oies, oui, pardon.
Bon.
On va contourner, on va peut-être les voir là sur le côté.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez vu?
Mais là,
c'est quoi? C'est un ragondin.
Ah, ben nous, on appelle ça... c'est pas une loutre?
Non, c'est un gros rat, en fait, d'eau.
Ah, mais oui.
C'est un ragondin, oui, c'est ça.
D'accord.
Attendez, on va le suivre, on va voir ce qu'il fait. Il est beau, hein?
Oh,
il nage.
Très beau, mais c'est rare, il est pas farouche du tout. En fait, j'en avais un quand j'habitais au bord d'un lac.
C'est vrai.
Et je l'avais surnommé. Donc, tout ce qui me vient, c'est le prénom que je lui avais donné.
Et comment
donc,
il s'appelait?
Ben, il s'appelait Raoul. Donc, je peux pas dire que c'est un Raoul.
Attendez, il va monter.
Ouais.
Ah, regardez, il est monté sur un rondin de bois.
Mais oui.
Il est en train de faire sa toilette. Il est beau.
Ouais, il est beau. Il est quand même pas très sauvage hein, pour être là devant nous comme ça. Je pense
il se gratte le ventre.
Oui, il se gratte bien.
Vous écrivez en appel des catastrophes pour les couvrir du tissu de nos différences. Il se fait tard pour la nuit humaine. On ne pourra pas toujours ne pas recommencer. On ne pourra pas toujours fuir au bout des hivers.
Oui, il y a deux éléments dans ça, en fait. Bien sûr, on le sait, la crise climatique, les désastres écologiques sont là, on en entend parler, hein, c'est pas d'hier, là, on remonte, il y a très très longtemps, en fait, qu'on alerte là-dessus. Mais, bon, le tissu de nos indifférences, c'est un peu que, c'est comme si on s'était mis des couches d'indifférence, et les statistiques, les chiffres, c'est comme si ça nous atteint plus, alors que tout. On ouvre le moindre journal, on ouvre la télé, le moindre bulletin radio d'information, peu importe, on va en parler. Il y a quelque chose qui se passe chaque jour par rapport à ça. La situation se détériore. Et pourtant, moi, je pense qu'à un certain point, la poésie, la littérature peut peut-être quelque chose qui peut transformer.
Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est en alertant, c'est ça?
Pas que. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On ressent les choses, on les respire, on les voit, donc on est des corps sensibles. On communique et on communie avec cette nature. Moi, je pense qu'on protège ce qu'on aime. Et comment aimer ce à quoi on n'est pas lié? Si on revisite notre lien à la nature, si on le recrée, si on le refait, si on le réenchante, on va vouloir protéger parce qu'on va aimer cette nature, on va vouloir qu'elle se perpétue, on va vouloir que les générations qui nous suivent profitent aussi de ces promenades comme nous on fait aujourd'hui.
Alors qu'Hélène joue avec le ragondin qui s'approche d'elle de plus en plus. Vous êtes fait un ami, hein, Hélène?
Je pense, en fait.
Il nous suit partout sur le bord du lac.
Oui, c'est impressionnant, vraiment. On est suivis. J'adore, mais il est impressionnant par sa grosseur.
Tenez, on va s'asseoir sur un banc. On a un banc là, juste là, très abîmé, dans un bois très détérioré, juste à côté de la roche. Et regardez, il y a une poule d'eau devant nous, là, juste là, qui vient de plonger et qui suit le ragondin.
Oui.
Et tous les deux jouent, et le ragondin qui vous a remarqué, hein, il sait que vous êtes là.
Oui, il vient, moi je pense qu'il veut dire quelque chose,
il
justement.
Il veut communiquer avec
les
vous.
Animaux, on parle des animaux, c'est vrai, prendre soin de cette nature qui est fragile, qui est là, et qui est là pour nous dire quoi? Pour nous dire que ce monde est beau, que ce monde est vivant. On parlait de contemplation tout à l'heure, la contemplation c'est une présence attentive et lucide aussi au monde. Hein, il nous fait tout un spectacle, là. Oui.
Ce que l'on ressent dans ces poèmes, Hélène Dorion, c'est votre envie de fouiller le monde. En plongeant dans la forêt, on se rapproche de l'origine du monde. Pour vous, vous écrivez même « Avant l'horizon, la terre a commencé à recueillir nos histoires, dans les arbres et sous la couche d'humus, au creux des vents et des vagues ». Et dans votre roman, vous dites aussi qu'on est un assemblage de racines. Vous racontez que l'arbre, finalement, ce n'est que la surface de ce que l'on est.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a tout cet invisible, en fait, qui est porté par chaque être vivant, par chaque arbuste, chaque pierre, chaque animal, chaque arbre et bien sûr, chaque être humain. Alors, pour moi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est très large. Ça, c'est un héron.
Ah oui.
C'est beau.
Et regardez, un canard. Hop.
Oui.
Un col vert qui vient d'atterrir, hein, parce que c'est vraiment ça, il nous a fait un atterrissage.
Voilà, on a vraiment toute une faune ici, juste devant nous, justement pour nous donner cet horizon de vie, de beauté. Et on pense parfois qu'une forêt, alors il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf des petits vents, mais non, il y a aussi tout cet invisible, il y a tout ce qui est en train de pousser, de se transformer et de faire l'effort de persévérer dans l'être, citons Spinoza. Mais nous aussi, on peut persévérer et voir tout ce qui est encore possible pour l'humain, pour l'univers et bien sûr pour la planète.
Votre recueil sera au programme du bac de français 2024, Hélène Dorion. Comment espérez-vous que les lecteurs réagissent à votre œuvre? Quelle émotion espérez-vous leur transmettre?
Ben, on parlait tout à l'heure de présence, de lucidité, d'attention au monde. Je pense que c'est de cet ordre-là, en fait. Ce que j'espère, c'est que les élèves, comme les lecteurs et lectrices, en fait, de mes livres, fassent une expérience immédiate de ces poèmes, le lisent dans la lenteur, dans une forme aussi peut-être de questionnement, d'accepter qu'il y a un inconfort, parce que c'est ça aussi la poésie. C'est-à-dire que si on veut être déplacé, il faut accepter d'être déplacé. Et la poésie veut nous déplacer. Des fois, on dit « mais c'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait... » Mais non, mais ça veut pas ça, parce que ça travaille la langue différemment et ça travaille l'être humain différemment. Donc, ce déplacement, il faut y être disponible, en fait, et accepter que ça ne s'adresse pas juste à l'esprit qui est habitué de tout comprendre, les phrases. Puis pour moi, ce n'est pas une question lexicale, parce que les mots sont tous assez simples, on ne lit pas avec un dictionnaire, mais quelque chose qui se déplace dans la langue, qui se déplace dans notre regard, parce qu'il y a évidemment toutes les évocations, les images, tout ça, mais aussi qui se déplace à l'intérieur de nous quand on laisse un poème nous rencontrer, là où il veut nous rencontrer. Donc, c'est moins un acte volontaire d'aller vers que d'être disponible au texte.
Donc, la poésie, c'est plus un ressenti qu'une interprétation?
Les deux, en fait, parce qu'on va d'abord ressentir ce que le poème a à nous dire, et ensuite, ben, notre expérience va filtrer, notre expérience...
On traduit un peu?
On met en mouvement, en fait.
Et ça, ça vous gêne pas, vous?
Mais non, parce
que... En tant que créatrice de poèmes, qu'on interprète, qu'on déforme, peut-être.
Non, 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 c'est pas déformer pour moi. C'est faire l'expérience du texte dans toutes ses possibilités. Et moi, je n'ai pas une position de vérité ou de pouvoir par rapport à la vérité supposée d'un texte. Non, on est assis à la même table. Les lecteurs, lectrices, professeurs, élèves, animateurs, peu importe, et moi. Et on dialogue à partir d'un texte qui est mis en mouvement. Moi, je mets du mouvement dans un texte. Je n'arrête pas les choses en disant, voilà, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et c'est l'intérêt d'un texte littéraire, justement, par rapport à n'importe quel autre texte, de faire en sorte qu'on puisse le déplacer à partir de sa propre expérience. Donc, le mettre en mouvement et, si ça se trouve, achever son mouvement.
C'est ça le conseil qu'on peut donner aux élèves.
À tout lecteur.
De se laisser imprégner.
Oui.
Par le texte et par le poème.
De le lire et de le relire et de le relire. Et je pense que ça s'adresse à tout lecteur, toute lectrice de poésie qui se dit « Ah non, moi, la poésie, c'est pas pour moi. » Oui, oui, c'est pour vous. Faites juste recevoir le texte et accepter d'être déplacé. On est disponible à ce que le texte va nous dire. Et peut-être il nous dira rien, mais peut-être que dans 6 mois ou 1 an, tout à coup, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut le lire et le laisser s'adresser à nous.
Merci beaucoup, Hélène Dorion.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.
Merci. C'était un grand plaisir de vous retrouver dans cette forêt avec ces animaux, ce lac, ces arbres, tout ce qu'il y a autour de nous. C'est très émouvant. Mes forêts, paru aux éditions Bruno Doucet. C'est le texte intégral, donc pour le bac 2024. Et pas même Le bruit d'un fleuve, votre roman, est paru en poche chez Folio. À bientôt, j'espère, Hélène.
À très bientôt, j'espère aussi. Merci, Emmanuel.
Merci à vous. Suivre un entretien-reportage inédit à La Réunion avec l'écrivain Jean-François Samelong qui va vous raconter un pan de l'histoire de l'industrie sucrière sur l'île. Ce sera après Marion Rampal et Bertrand Belin dans la librairie francophone de Beau Dimanche. C'est le titre.
Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues, mousse s'accrocher à l'arbre. La vie m'a prise, je suis au fer, presque à ton bras, 2 pas pour le bal, 3 sur le côté. Passer lentement, sous le ciel qui change ses habits, sans faire. Puis le reste en nous chatoune à travers le temps. Pourquoi le jour m'empêche un joli chien qui tôt matin me mord le bras, les yeux, les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était sans faire de beau.
Marion Rampal et Bertrand Belin de Beaudimanche.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et voici la chronique des libraires, première partie avant d'aller à la Réunion avec Jean-François Samelong. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Emmanuel, si vous en avez marre de frissonner de froid, eh bien je vous conseille de lire Comme si de rien n'était de Barbara Havel, vous voyez.
On frissonne moins de froid là en ce moment, ça va.
Voilà, c'est de tension nerveuse que vous allez frissonner.
Ah d'accord.
Alors ça commence avec une maman qui conduit son fils.
Tout va bien.
Voilà. Avec Barbara Havel, je ne dirais pas ça. Donc c'est une maman qui conduit son fils au cours de solfège et le prof semble reconnaître la maman. Elle, elle a aucun souvenir de lui. Bien sûr, c'est que le début. Et comme toujours avec Barbara Havel, on marche sur le sable, on est dans les faux-semblants, on ne sait pas où on est, on ne sait pas à qui on peut faire confiance. C'est construit comme une belle mécanique, on ne le lâche pas avant d'avoir fini, c'est un grand cru.
Bien, Barbara Havel qui est très connue effectivement pour son œuvre, toujours dans ce style, très frissonnant comme vous dites, effrayant.
Voilà, voilà.
Comme si de rien n'était aux éditions Récamier. Merci Déborah. Un coup de gueule en Suisse, Alexandre Dimitrievitch.
Pour rester dans le thème de la forêt chère à Hélène Dorion, je voulais vous parler de Matisse et la forêt des possibles, un livre jeunesse de vulgarisation philo proposé par l'auteur suisse Jiří Benovský. Si je vous en parle aujourd'hui dans la rubrique coup de gueule, c'est parce que cette histoire m'a mis dans un certain inconfort malgré mon appétit pour les histoires fantastiques. Ouais, en fait, Benovský nous invite à travers le dédoublement d'un enfant dans une forêt mystérieuse à défricher des concepts philosophiques très très poussés comme l'impermanence de l'identité et d'autres joyeusetés métaphysiques plutôt angoissantes. Ouais. En plus, pour ne rien arranger, l'auteur s'est aidé de l'intelligence artificielle pour générer une esthétique tout à fait terrifiante à mon goût.
Ouais, pourquoi ? Parce que c'est trop dur pour eux ? Vous pensez
Oui, je pense qu'il y a certains concepts philosophiques qui mériteraient d'être étudiés un petit peu plus tard.
Oui, ça c'est clair. Bon, merci Alexandre. Le titre, je vous le donne quand même, c'est Matisse et la forêt des possibles. Merci Alexandre. On vous emmène sur l'île de la Réunion avec un grand écrivain de l'île pour vous raconter l'histoire d'une famille puissante qui a notamment participé à l'esclavagisme et qui a laissé des traces, beaucoup de traces et des vestiges.
Alors on est ici sur le site de Grandbois, ancienne usine sucrière pour le sud de l'île de la Réunion, puisque justement la famille Dekavegan possédait plus de 5000 hectares de cannes sucrières dans le sud-est de l'île de la Réunion. Et cette usine de Grandbois, elle est importante parce qu'on travaillait ici des milliers d'esclaves et ensuite des milliers de travailleurs engagés venus de l'Inde notamment. Et c'est une page d'histoire extrêmement importante pour nous réunionnais qui regardons cette histoire de loin mais pas de très très loin parce que ici c'est vrai c'est un site où les propriétaires terriens, les grands esclavagistes ont gagné beaucoup d'argent et puis les esclaves ont beaucoup souffert, les engagés également et donc moi je dis souvent il faut tenir compte de ces données historiques qui sont les nôtres, ne pas les négliger mais les dépasser assez rapidement pour regarder vers l'avenir.
Voilà, donc ici à Grandbois avec Jean-François Samelong pour ce nouveau roman, La Tour d'Orgueil, paru chez Caraïbes Éditions. Bonjour Jean-François, d'abord merci beaucoup de nous accueillir ici. Nous sommes dans un endroit qui a été entièrement rénové, c'est-à-dire qu'il y a les vestiges des usines, de l'usine sucrière de Grandbois. Juste en face de nous, à quelques mètres, on a la mer évidemment. Ce livre, il raconte l'histoire de la famille de Kervegen, qui a marqué l'histoire de l'île dès le milieu du XVIIIe siècle. C'est une famille que vous avez imaginé vivre encore aujourd'hui, ou elle existe encore avec les descendants ?
Disons que les affaires de la dynastie des Kervegen se sont écroulées au lendemain de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et donc la famille a tout vendu et a quitté l'île. Mais ici restent quand même les vestiges et puis le souvenir de cette famille de Kervegen, une des plus puissantes de l'île à l'époque, qui possédait un millier d'esclaves, 5000 hectares de terres cultivables en canne, et surtout une autorité politique, une autorité économique incontestable sur l'île. La preuve, c'est que la famille Kervegen avait sa propre monnaie qui s'appelait le Kervegen. Et donc on l'a autorisé à frapper ses propres pièces qu'il a ramenées de l'Empire d'Autriche, hongrois, autrichienne. Et donc il avait sa propre monnaie dans l'île, il s'est enrichi comme ça. Autre fait remarquable qui montre un petit peu la puissance de cette famille, la richesse, c'est que Gabriel de Kervegen a tenu à acheter auprès du Vatican, à l'époque, le titre de comte.
Ah, il a acheté le titre.
On pouvait acheter un titre, le renom de la dynastie, tout ça, ben, ça ne suffisait pas, il fallait encore un peu plus d'orgueil, d'où le titre du roman, La Tour d'Orgueil.
Oui, c'est ça. Alors, La Tour d'Orgueil, justement, on est face à une sorte de tour, c'est une cheminée, vestige de l'ancienne usine. Oula, vous entendez le vent, là, derrière, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, là, aujourd'hui. Et il y a une plaque commémorative, alors j'arrive pas trop à lire ce qui a marqué, à la mémoire de nos ancêtres, c'est un peu effacé, donc engagé.
Ah oui. Tiens, voilà. Cette tour, elle est symbolique, justement, elle symbolise aussi l'orgueil de la dynastie de Kavegan. Et donc, le fait que, justement, sur cette tour, on a mis cette plaque au nom des engagés indiens, qui ont remplacé les anciens esclaves au lendemain de l'abolition de l'esclavage en 1948, mais les conditions de vie de ces engagés indiens ne différaient pas beaucoup de la vie des esclaves.
C'est-à-dire que comme l'esclavage est aboli, on fait venir effectivement des colonies britanniques, notamment, des personnes pour travailler. Et ils sont au même titre que les esclaves, sous-payés, voire pas du tout payés, maltraités, mal logés, mal nourris.
Absolument. Et donc ça a duré encore pendant des années. Et en fait, le seul mot d'ordre, c'était s'enrichir, enrichir la colonie également. Et en fait, la question de l'humain ne comptait pas beaucoup. Une preuve, par exemple, aussi, cet orgueil des grands propriétaires esclavagistes. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, plutôt que d'indemniser les esclaves, on a indemnisé les esclavagistes.
Ah, oui, c'est vrai.
Et donc, les ex-esclaves, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans logement, sans emploi, sans nourriture. Et donc, ils ont été obligés de repartir vers leur ex-maître pour leur dire, écoutez, on n'a rien, on n'a pas d'emploi, nous revenons travailler.
Certains sont revenus.
Ouais. La plupart d'entre eux.
La plupart d'entre eux. Et c'est vrai que les esclavagistes, on leur donne, par exemple, 10 engagés pour un esclave. On fait des compensations comme ça, c'est horrible.
Absolument. Et donc, on a sorti une loi qui disait que si un ancien esclave était surpris en temps de vagabonder, c'est-à-dire s'il n'avait pas un emploi, s'il n'avait pas un contrat de travail, c'était un crime et il était condamné. Il était mis en prison. Donc là, encore une fois, donc on a obligé les 62 000 esclaves libérés en 1948 donc à retourner chez leurs anciens maîtres. Alors là où ça s'est mal passé aussi, c'est que les engagés indiens qui sont arrivés après, ils nous ont dit, nous, on n'était pas des esclaves. Vous étiez des esclaves.
Eh oui.
Nous, on n'était pas des esclaves. Donc ça a créé encore un différent parmi cette masse laborieuse. Et plutôt que de partir vers une solidarité entre travailleurs, eh bien, ça a créé encore une sorte de dissension entre eux. Voilà.
On va aller vers la mer parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors vous racontez que les deux Kervégen ont traversé l'histoire et qu'aujourd'hui encore, vous imaginez donc dans ce roman qu'ils dirigent et contrôlent tout sur l'île. C'est la démonstration pour vous, Jean-François, que le colonialisme et l'esclavagisme ont encore des répercussions sur l'île. Vous laissez entendre que le capitalisme actuel est construit sur ce socle du colonialisme.
Merci Emmanuel pour cette question. Finalement, c'est la clé du roman. En fait, ce n'est pas un roman historique. C'est un roman contemporain sur fond historique. C'est-à-dire que je réactualise l'histoire et effectivement, je montre que deux siècles après, rien n'a changé. Et aujourd'hui, donc, nous sommes toujours dans un système capitaliste. Et à l'île de la Réunion, il y a ceux qui sont très riches, comme en métropole d'ailleurs, dans l'Hexagone, et il y a ceux qui sont très très pauvres. Et je n'arrête pas de le dire. Moi, le fait le plus inquiétant, aujourd'hui, tout le monde le sait, ce sont des chiffres publics de l'INSEE. 325 000 familles réunionnaises vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème social assez aigu dans cette île. Mais le problème, encore une fois, on ne met pas l'accent sur l'humain. Et ça, je le regrette beaucoup en tant qu'écrivain, en tant que romancier. On met encore l'accent en 2023, au 21e siècle, sur l'enrichissement personnel et encore, et encore, et encore.
Là, de certaines familles et des industriels, c'est ça
et
encore aujourd'hui.
Les mêmes que se dit, c'est-à-dire ceux qui détiennent les banques, ceux qui détiennent les chambres notariales.
Oui, vous parlez de la spéculation immobilière. Alors ça, c'est vrai, c'est très contemporain. Et vous montrez que les acquisitions foncières, la spéculation immobilière entravent aujourd'hui le peuple. Elles vident les caisses des salaires par l'inflation, des prix des logements qui augmentent. Ça génère aussi des angoisses de la vie pour certaines familles. On est encore finalement avec un peuple soumis aux contraintes économiques. Et ça passe effectivement par le foncier, par l'immobilier.
Exactement, et d'autant plus qu'il y a de moins en moins de foncier disponible, et donc ceux qui possèdent le foncier, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils bâtissent des immeubles mis à la disposition des Réunionnais qui ont les moyens de payer un logement. Et donc, en termes d'acquisition même de foncier, c'est fini, c'est terminé. Ce qui s'est passé aussi avec les Cavegaines et les bassins, c'est-à-dire toutes les tractations se font au niveau des chambres notariales, et quand il y a, par exemple, un millier d'hectares de cannes à vendre, ben, le notaire, il contacte la banque, il contacte les grands propriétariens.
Ça, c'est entre eux, quoi.
C'est entre eux, c'est entre familles, si je puis dire. Et donc, ce qui explique la puissance de Cavegaines, c'est qu'automatiquement, ils ont pu acquérir toutes les terres les plus riches de l'île de la Réunion grâce à ce système familial, si je puis dire, qui passe par les chambres notariales. Parce que, bon, ils avaient les banques avec eux. Et ils avaient aussi les moyens financiers donc, pour faire cette acquisition. Ce que je constate aujourd'hui, rien n'a changé, ça continue.
Le roman de Jean-François Samelong, La Tour d'Orgueil, est paru chez Caraïbes Éditions. La chronique des libraires, seconde partie avec un hommage à Paul Auster, donc, je vous le disais tout à l'heure. Sophie Todescato en France.
Oui, ça peut sembler un peu étrange de rendre hommage ici dans la librairie francophone à Paul Auster, immense écrivain américain disparu cette semaine, mais il a été sans doute le plus francophone, le plus francophile de tous les auteurs américains, lui dont la France, disait-il, était le deuxième pays. Il a étudié, il a adoré la littérature française, il l'a traduite aussi, et puis il a passé plusieurs années à Paris, des années de formation cruciales, dont beaucoup de ses livres portent trace. Lui rendre hommage, c'est rappeler que les ambassadeurs les plus fervents d'une culture, ce ne sont pas que les académiciens ou les natifs, c'est aussi les émigrés, les traducteurs et tous ceux qui inventent leur manière d'en adopter la langue. En tout cas, les lecteurs français, en faisant un triomphe à la trilogie new-yorkaise ou à Baumgartner, le dernier livre de Paul Auster lui sont éternellement reconnaissants.
Immense francophile, hein, Paul Auster. C'est vrai qu'il a porté d'une certaine façon la francophonie aussi à travers le monde, grâce à sa passion pour la France et pour la langue française. Paul Auster. Josiane Letourneau au Canada, Paul Auster était très lu aussi au Québec.
Ah, immensément. Et puis, en fait, j'ai en ce moment son dernier livre entre les mains. Je peux pas croire que ça va être le dernier. Pour nous, Paul Auster aussi, ça a été une porte vers la littérature américaine. Bon, évidemment, on a dit que c'était un francophile et tout. Mais bon, c'est un écrivain remarquable qui, en fait, nous a fait comprendre que la littérature, ça pouvait être ça. Ça pouvait aussi être une littérature un petit peu des obsessions avec ce New York qui est toujours présent, le baseball. Et aussi, l'écrivain dans le livre, le livre dans le livre, c'était une obsession pour Paul Auster. En fait, dans à peu près tous ses livres, on avait accès à ça, à l'importance de l'écriture, du personnage de l'écrivain. Pour moi, c'était quelqu'un d'extrêmement sensible et on le sentait dans ses personnages. C'était quelqu'un d'humain. Alors, c'est une grande perte parce que c'était vraiment un écrivain incomparable.
Auteur de plus d'une trentaine de livres traduits dans plus de 40 langues. Effectivement, l'œuvre est considérable et son dernier roman, Baumgartner, est donc paru aux éditions Actes Sud et Leméac au Québec. Il est sorti en mars dernier. Merci à vous pour cet hommage. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec le groupe maoré El Had.
Que jana pia yuri rastiri nazilu ala nazilu nanyum ketu babu musta hamili tevez algo que me enza chilo chilo mide Wajima zangu kamani tokumeza.
Nam tu funda mwana sene moya Si hazi ya mtu fanya nuhoi Na atu ajana wa imaizi na bonera wa imaizi Dema natahu wa dagu la kamili Lisheli hene ya malezi Mida ivoka mwan hali ya mo Haujuamba unata unatungu nyingzi Shevet za umo wazani Tide mauko jana pia Yudira stiri nazilo La la nazilo Nanyu ketu babu musta Hamil keme zangu keme yenza shunilo
Un extrait de Imida, interprété par El Had, originaire de Mayotte. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince, avec Benjamin Wagon, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère, avec Constance Gonin et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous irons à Bruxelles. Yves Namur nous a ouvert les portes de l'Académie Royale de Belgique et en Martinique, sur les hauteurs de Fort-de-France, dans les terres, avec l'auteur Nadia Chonville pour cette seconde émission spéciale reportage dans le cadre de nos deux éditions spéciales printemps hors studio. Passez un très bon week-end, une belle semaine.